Bienvenue dans votre cyber-revue de presse, l'autre monde, une dose de lucidité hebdomadaire pour stimuler la réflexion et inviter à l'action. Je me nomme François Marginan et je serai avec vous pour la prochaine heure et demie. En cette édition du 19 novembre 2010, alors nous sommes bien vendredi, vous n'avez pas rêvé. Vous êtes à l'écoute, évidemment, de la chaîne de Choc FM, la radio officielle de l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal, l'alternative à Montréal et dans le monde. Alors, on joue au chat et à la souris, chers auditeurs. Comme vous avez vu, la semaine passée, nous avons sauté l'émission. C'est à peu près la même chose qui est arrivée à mon ordinateur, il a sauté. Alors, comme un malheur n'arrive pas seul, eh bien, non seulement j'ai eu des problèmes avec mon ordinateur, et bien cette semaine j'ai des problèmes avec ma santé. Alors, une semaine c'était un problème de santé d'ordinateur, et une semaine c'était un problème de santé avec le corps. Alors, j'ai chopé un autre de ces fameux rhumes, et puis me voilà avec un peu cette voix agaçante, mais il va falloir composer avec. Je m'en excuse bien bas. Alors, voilà quoi. Donc, à cause de différentes raisons, nous sommes un peu décalés cette semaine exceptionnellement. Et puis, je vous présente toutes mes excuses. Là, j'ai eu plusieurs. C'est quand même, vous savez, une situation malencontreuse peut entraîner des effets intéressants. C'est dans le sens que c'est quand qu'on s'aperçoit que quelque chose ne roule plus que finalement elle nous manque. Et puis, je dis ça très bien humblement, c'est que j'ai plusieurs auditeurs qui m'écrivent. Où est l'émission? Êtes-vous correct? Je ne trouve pas l'émission d'hier, du 18. L'autre monde, on s'ennuie. Ma dose de lucidité hebdomadaire. Alors, vous me faites bien plaisir. C'est toujours très agréable de recevoir vos commentaires et de savoir que, ce que je fais, même si je passe des fois même trop de temps là-dessus, je néglige d'autres aspects de ma vie. Que savoir que c'est apprécié, alors ça me va droit au cœur, et puis je tiens à vous remercier, et puis plus qu'on parle de ça, écoutez, je me suis résolu à faire de quoi aussi, vous savez, on travaille bénévolement ici, là, donc tout ce qu'on fait, évidemment, sort de notre poche, alors il y a une chose là que j'aimerais améliorer très bientôt, je suis en train de travailler sur ce dossier, étant donné qu'il a fallu que je réinstalle tout sur l'ordinateur et que je passe de nombreuses heures à retrouver les informations que j'ai perdues, donc toute l'émission de la semaine passée que j'avais préparée s'est retrouvée perdue, il a fallu réinstaller tout le programme d'exploitation sur l'ordinateur. Alors, ça m'a vraiment ramené à l'arrière, là. Donc, il a vraiment fallu que je passe plusieurs heures là-dessus. Il y a une autre chose que je devrais améliorer tant qu'à travailler sur l'ordinateur, c'est la qualité du son. Alors, sous peu, je devrais être capable de vous offrir une meilleure qualité de son d'enregistrement. Alors, je me fais plaisir, et surtout à vous, je fais plaisir, vous qui écoutez l'émission de façon régulière. Alors, vous savez, quand on est en studio, évidemment, le son est très bon, mais quand je suis à l'étranger, en Asie, alors j'enregistre avec les moyens que j'ai, et puis, voilà, quoi, donc ça donne ce que ça donne. Alors, il y a moyen de s'entendre, mais la qualité du son pourrait être meilleure. Alors, je suis en train de travailler sur cela, alors je vais investir un petit peu pour vous, et puis je vais essayer d'améliorer le son, alors voilà. Donc, j'ai oublié de me présenter pour ceux qui sont les nouveaux venus sur cette émission. Alors, je me nomme François Marginan. Et ici, sur l'autre monde, pourquoi l'émission est appréciée? C'est parce que On n'essaye pas de finalement d'essayer de plier, de façonner, de manipuler la réalité pour qu'elle se cadre à nos croyances, mais nous sommes plutôt à la recherche de la vérité, à savoir ce qui se passe réellement. Je suis un grand curieux, alors je lis de façon quasiment maladive, et puis ben, à un moment donné, on finit par avoir une bonne perspective malgré tout, donc il y a quand même des bons côtés à ça. Et puis, ben, j'essaie seulement de vous transmettre cette information-là, attirer votre attention sur des pièces d'information qui, je crois, valent la peine d'être découvertes et puis sur lesquelles on se doit de réfléchir. Alors, je ne vous dis pas quoi penser. En réalité, je vous encourage à réfléchir par vous-même, à devenir souverain de votre pensée, indépendant de la pensée. Alors voilà, donc je vous invite tout le temps à aller voir le site Les Nouvelles Internationales sur lesquels se retrouvent tous les articles, les liens dont je discute ici à chaque semaine, et aussi la chaîne de YouTube de l'Autre Monde qui est entretenue à chaque semaine par notre correspondant français Stéphane Poutoir. Alors voilà. J'aurais un petit appel à passer, tant qu'on parle aussi là, d'introduction. Écoutez, je suis étroitement lié là, avec le site des Sept du Québec qui, en ce moment, gère la plateforme de journalisme citoyen québécoise qui s'appelle Sans Papier. Et puis, on a beaucoup de difficultés à trouver des techniciens informatiques, en informatique, qui savent finalement là, travailler en format, je pense que ça s'appelle PHP, si je me rappelle bien. Vous savez, là, je ne suis vraiment pas un informaticien, là, donc je vous lance ça comme ça, là, je crois que c'est en PHP. C'est en fait une plateforme de WordPress, là, donc les experts vont savoir là, à quoi je réfère. Alors, si vous connaissez quelqu'un, vous êtes vous-même là, un informaticien, vous avez un peu de temps libre pour travailler sur une plateforme et puis que vous êtes intéressé à travailler un peu, et puis évidemment, on est prêt à rémunérer. Ben, faites-nous le savoir, écrivez-moi, et puis je vais transmettre ces informations-là à l'éditeur, et puis ben, ça va faire bien plaisir. Alors, si vous connaissez quelqu'un là, qui n'a pas envie de saboter une plateforme, là, parce qu'on a eu des problèmes dans le passé, des gens qui ont voulu nous aider, qui finalement nous ont planté un couteau dans le dos, nous ont planté un couteau dans le dos, parce que finalement, ils ont essayé de saboter la plateforme. Alors, bon, veuillez vous abstenir si vous êtes dans cette catégorie, bien sûr, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, ben, c'est ça. Donc, je lance l'appel. Si vous connaissez quelqu'un ou vous êtes vous-même habile en format PHP, je me rappelle bien, là, donc en format là, pour travailler sur des plateformes de style WordPress. Eh bien, vos services sont grandement demandés, sont en grande demande, on a un grand besoin. Alors, n'hésitez pas, ça va me faire plaisir de communiquer avec vous et puis on en choisira un. Alors voilà, cet appel est fait. Alors cette semaine, bien, écoutez, grosse semaine de fou. Vous savez, à chaque semaine, je répète, à chaque début d'émission, je vois déjà les choses s'en venir. J'ai tellement d'informations sur le pupitre ici. Je veux dire, j'en aurais pour des heures et des heures. Évidemment, quand en plus là, je manque une semaine, ben là, finalement, je me tire les cheveux dessus la tête. Donc cette semaine, on va essayer de parler là, des sujets les plus importants qui nous touchent. Bon, autant ici au niveau national de la sur la plateforme québécoise, autant canadienne, et puis après ça, on va faire un petit bond aussi au niveau international. Donc, on va essayer de traiter de sujets les plus chauds là, qui touchent à l'actualité là, ces derniers temps. On va parler, une chose est certaine, on va parler des fameux scanners corporels que je nomme les porno scanners corporels. Une affaire complètement incroyable, là, c'est en train de faire toute une histoire là, aux États-Unis. Donc, on va parler de tout ça, de la révolte qui se fait sentir de partout. On va parler de Stephen Harper, c'est notre premier ministre au Canada qui se plie au pouvoir sioniste, en plus de prolonger la présence militaire en Afghanistan de nos troupes canadiennes. Alors, oui, un pays neutre, c'est tellement fantastique. Alors, on va parler de ça. J'espère pouvoir parler d'économie, manipulation massive du marché des métaux précieux. J'ai écrit un article qui est disponible sur les sites du Québec, sur les nouvelles internationales et sans papier. Alors, n'hésitez pas à lire ça. Je vais vous en passer un peu aussi d'informations sur l'émission. Et bon, des banquiers privés, actualité mondiale. Donc, on va se toucher à tous les trucs les plus importants, quoi, là, vous tenir au fait des nouvelles là, vraiment les plus importantes. Et puis, comme je vous dis, moi, j'attire votre attention sur ces pièces d'information-là. Pour ça, je les mets en lien. Et puis, vous avez une semaine là, pour aller fouiller là-dedans et puis vous faire une bonne idée là, de ce qui se passe. Et puis, si vous n'êtes pas d'accord, ben, c'est correct avec ça. Puis, si vous êtes d'accord, ben, c'est tant mieux. Je veux dire, comme je vous disais, nous, on n'est pas là pour vous dire quoi penser, mais plutôt pour apporter des types d'informations là, que je crois qui sont les enjeux principaux là, dans notre société, dans le monde en ce moment. Donc voilà, c'est pas mal ça. Donc on va y aller là, on va y aller tout de suite là avec les sujets brûlants de la semaine. Ici, on va y aller déjà là d'une affaire intéressante là. J'ai reçu des informations très intéressantes cette semaine qui disaient que l'Internet est une révolution. Et on demandait aux gens là un peu la question de ce qui se passerait, ce qui arriverait si un jour quelqu'un en autorité décide de désactiver l'Internet ou d'en prendre le contrôle absolu. Et le fait que les citoyens ne sont pas propriétaires des infrastructures du réseau et disposent donc de peu d'arguments pour se faire entendre. Certains parlent de l'urgence de créer des infrastructures de réseautique citoyenne, bref, un réseau Internet parallèle. Vous savez, on a souvent parlé ici sur l'autre monde du gouvernement américain qui essaie de donner le pouvoir finalement là d'éteindre l'Internet à n'importe quel moment qu'ils veulent sous le prétexte là d'urgence nationale ou de menace à la sécurité nationale. Vous savez, à un moment donné, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une fausse attaque, encore un false flag attack sur l'Internet, qu'on blâme ça sur n'importe qui, là, et puis que là, on dit, hey, pour protéger les infrastructures de la sécurité nationale des États-Unis, on doit fermer l'Internet, zap, d'un coup, vous n'êtes plus capable d'envoyer des courriels ou même de naviguer sur l'Internet. Alors, vous savez que les principaux réseauteurs sont aux États-Unis. Alors, ils ont ça déjà chez eux. Donc, on met la machine à off, puis ça vient de s'éteindre, là, OK? Donc, il y a plusieurs personnes dans le mouvement qui se disent, ben écoutez, là, avant d'attendre là, que ça se passe, ben peut-être qu'on est mieux de créer des structures parallèles. Donc, si jamais ça arrivait, ben on ne serait pas pris, là, tu sais, on pourrait continuer à communiquer quand même là, de façon assez raisonnable là, pour pouvoir se maintenir au courant. Parce que c'est évidemment là, de plus en plus ce qui se passe sur Internet est une menace pour l'ordre établi, pour l'élite, pour le pouvoir en place. Alors on va chercher n'importe quel moyen de le démoniser, de l'apparenter à du terrorisme, à un risque pour la sécurité nationale, puis éventuellement, ben écoutez, peut-être bien en prendre contrôle là, ou d'amener un Internet qui va être complètement privé et corporatif sur lequel il va falloir demander la permission d'avoir un site en soumettant le contenu pour approbation. Et à ce moment-là, il va y avoir un Internet à deux vitesses aussi, dépendant de combien vous payez pour votre site. Et puis, à ce moment-là, bien, les compagnies privées vont pouvoir se réserver le droit de vous refuser l'accès ou pas, ou de vous donner une vitesse moindre que d'autres méga sites ou médias, peu importe. Donc, ça, c'est une éventualité très possible, même où on aurait à se procurer des licences pour pouvoir même accéder à l'Internet. Je crois qu'ici au Canada, on est en train de déréglementer le secteur pour permettre à des grandes compagnies de télécommunications de charger des frais selon l'utilisation qu'on en fait. Alors, on est en train là de finalement détruire le principe de la neutralité du net. Alors, dans ces informations-là ici, ben on a un exemple là, tu vois, de système qui pourrait justement nous venir en aide, donc un réseau Internet parallèle. Et puis ici, on parle du projet Dead Drop, qui est extrêmement primitif, évidemment, et dans ses premiers pas, mais qui pointe quand même vers la direction à prendre, c'est-à-dire de mettre en place, de prévenir, de se préparer à de telles éventualités. Alors, allez voir ça, c'est très intéressant. Ensuite, on va parler tout de suite là, de cette histoire merdique, là, réellement, là, de Harper qui pense à demeurer en Afghanistan jusqu'en 2014. Alors, j'ai écrit un article la semaine passée qui s'intitulait 1000 raisons de ne pas faire confiance aux autorités. Et je posais la question, pourquoi sommes-nous en Afghanistan? Est-ce qu'on s'en rappelle réellement? Cela fait si longtemps que nous y sommes qu'on en vient qu'à se demander ce qu'on fait encore à cet endroit. Quelle est notre mission réelle? Quel est le but de tout cela? Pendant qu'on se pose ces questions, le secteur de l'armement et militaire privé fait des tonnes de profits, car disons-le clairement, chers auditeurs, ces guerres en Irak et en Afghanistan sont semi-privées. Il y a autant, sinon plus, de personnel provenant de compagnies privées qu'il y a de soldats réguliers, de personnel militaire relié à l'armée. Lorsque des guerres apportent autant au secteur privé, il va sans dire qu'ils ont tout intérêt à ce que ces guerres s'éternisent le plus longtemps possible. Ils sont sur la bonne voie, évidemment. La guerre en Afghanistan a déjà duré plus longtemps que la Deuxième Guerre mondiale et la guerre du Vietnam, un fait qui est loin d'être anodin. Le Canada a commencé sa participation à cette guerre et occupation militaire à la fin de 2001. Depuis, il a bien été établi que cette guerre était simplement illégale et immorale. Le gouvernement canadien nous a vendu le concept en se drapant de couleurs fades de la défense de la démocratie, de vouloir aider les femmes opprimées et de défaire les talibans maléfiques que les États-Unis avaient auparavant laissé prendre le pouvoir. Ces talibans qu'ils accusaient alors de cacher le vilain Osama bin Laden, ou devrait-on dire Tim Osman, l'homme de la CIA. Depuis, le Canada nous avait promis de se retirer rapidement. Un coup, la mission accomplie. Et puis là, on y va de mandat en mandat, de 2 ans à 3 ans. Là, on dit, on va se retirer dans 2, 3 ans. Toutes les fois qu'on atteint le nouvel échéancier, là, on dit, ah, ben, on va rester un peu plus longtemps. Après ça, on dit, mais là, on va partir pour de vrai, là, dans 2, 3 ans. Et finalement, ben, à toutes les fois que l'échéancier se termine, on dit, ah, ben, là, il va falloir rester un peu plus longtemps. Finalement, on se fout bien gros de ce qu'on pense. Vous savez, la majorité de la population canadienne, je vous rassure, si vous êtes des ressortissants afghans aussi, vous avez quelques liens à ce pays-là. Vous avez toutes les raisons de vous poser des questions par rapport aux intentions réelles du Canada, nous qui étions normalement vus comme étant un pays neutre et pacifique. C'est plus le cas. C'est plus le cas, puis c'est un fait. C'est-à-dire qu'on regarde le budget, l'ensemble de l'argent qui était loué aux opérations militaires versus les opérations pacifiques. Et vous allez vous rendre compte là, que c'est un ratio là, de 95% à 5%. Donc, le Canada est en train de verser dans une idéologie guerrière, impériale, d'occupation colonialiste, agressive, agressante, d'occupation militaire de différentes contrées étrangères, dans des guerres qui sont illégales et immorales. Donc, c'est là où on en est rendu. Et puis, ben écoutez, la situation des femmes s'est pas améliorée, elle s'est détériorée. Les talibans sont en train de reprendre contrôle de l'entièreté de l'Afghanistan. Et puis, démocratie, ben là, démocratie, il n'y a pas de démocratie, je veux dire, les élections sont truquées à chaque fois. Vous avez des seigneurs de la guerre et de la drogue qui sont dans le gouvernement de Karzai. Des talibans, finalement, sont en train de vouloir faire un pacte avec les talibans. Finalement, toute cette histoire-là, ça sert absolument à rien. Et les objectifs qui étaient bien différents de ce qu'on avait annoncé là, en façade, qui se cachent derrière les motivations là, de nos nations de se trouver là-bas. Et puis depuis, le Canada nous avait promis de se retirer rapidement un coup la mission accomplie. Et puis, comme je vous disais, finalement, on se retrouve même avec les troupes de l'OTAN qui subissent des pertes de vie grandissantes avec 2009 et 2010 étant les pires années depuis le début de cette mésaventure colonialiste et impériale. La majorité des Canadiens, et surtout des Québécois, étant contre la participation informe de nos troupes à l'occupation de l'Afghanistan, le gouvernement canadien nous propose des échéanciers pour se retirer, mais à chaque fois que la date butoir arrive, il décide contre notre gré de poursuivre, de demeurer en Afghanistan quelques années de plus. Et puis c'est le message que j'étais en train de vous dire, si vous avez quelques liens avec l'Afghanistan, ne vous trompez pas, la majorité des Canadiens n'ont vraiment aucune envie de demeurer là. On n'a jamais eu le goût d'y aller. Il n'y a jamais eu aucune raison, finalement, d'envahir votre pays. Ce gouvernement qui se nomme le gouvernement du Canada ne nous représente pas, ne parle pas en notre nom. Et nous le condamnons. Et puis, nous devrions en faire beaucoup plus, réellement, si on était honnête et plus intègre que ça. On ne laisserait pas cette chose-là se poursuivre. Et puis, ben écoutez, la triste histoire, c'est que la dernière fois, le premier ministre Stephen Harper avait promis de retirer les troupes canadiennes en 2011, mais voilà qu'encore une fois, les autorités songent à garder sur place des centaines de soldats jusqu'en 2014. La mission doit se poursuivre, nous dit-on. Cette fois, les soldats auraient un rôle hors combat, d'entraînement des forces afghanes en coopération avec l'OTAN. La décision pourrait être prise rapidement pour régler la question en vue du sommet des dirigeants de l'OTAN à Lisbonne, Portugal, le 18 novembre prochain, que j'écrivais dans l'article. Et le 18, ben, c'était hier. Et puis, depuis ce temps-là, ben, écoutez, le chat est sorti du sac. Les troupes canadiennes vont rester en Afghanistan. Ça a été annoncé par le gouvernement. On a décidé de ne pas consulter le Parlement. Monsieur Harper. Finalement, lui jugeait que ça n'en valait pas la peine, que ce n'était pas vraiment nécessaire de consulter la population, ni même le Parlement. Alors, vous voyez là un peu le type de gouvernement. Quand je dis ça ne nous représente pas, ça ne nous représente pas. On voit que le gouvernement canadien adopte une politique étrangère qui est de plus en plus calquée sur celle des États-Unis. Et vous avez des groupes comme le collectif Échec à la guerre qui n'a jamais trouvé crédibles les déclarations conservatrices des derniers mois annonçant le retrait total des troupes canadiennes de l'Afghanistan à partir de juillet 2011. Ça ne va pas se passer. Ça ne va pas se passer. Vous savez, on a dit la même chose. Les troupes américaines étaient censées se retirer cette année de l'Irak. On nous a monté un show incroyable, vraiment un spectacle, où on a prétendu qu'on retirait les troupes. Et puis finalement, ce qui est arrivé, c'est qu'on a vraiment mis une mise en scène. On a montré les troupes qui quittaient le pays. Ces troupes-là n'ont jamais quitté le pays, se sont repliées sur certaines bases militaires, sont restées là quelques jours. Et puis un coup que le coup médiatique a passé, ben on a commencé à redéployer ces soldats-là. Et puis je vois des nouvelles régulièrement dans les nouvelles où les soldats américains sont impliqués dans des combats en Irak. On opère des dizaines et des dizaines de bases permanentes en Irak. L'armée américaine ne s'est jamais retirée, ne se retirera pas de sitôt. C'est la même affaire, c'est le même cas avec l'Afghanistan. Le Canada vous dit que là, on va adopter des missions des missions pacifiques, d'entraînement des troupes afghanes, puis qu'on veut plus participer au combat. Ben, ça, c'est de la foutaise. C'est de la foutaise. On vous ment encore. On vous fait le doigt d'honneur. On vous prend pour des valises, pour des tatas, des sans-dessins, des caves. On espère que vous allez encore manger ça. Avaler des couleuvres. L'argument qui est repris en cœur, c'est un changement de cap du gouvernement Harper en raison des pressions de l'OTAN. Apparemment que le gouvernement canadien, il y a des pressions de l'OTAN. Hey, je vais verser une larme. Attendez un peu, je vais. Hey, maudit, on a des pressions de l'OTAN, je me sens. Hey, maudit. Alors, on dit que. On nous avance des arguments comme ça qui ne sont pas crédibles du tout. Bien sûr, de telles pressions sont exercées sur le Canada depuis plusieurs mois, mais elles sont essentiellement le fait de deux pays, les États-Unis et le Royaume-Uni, dont le gouvernement Harper partage par ailleurs entièrement la vision concernant la poursuite de l'intervention de l'OTAN en Afghanistan et ailleurs dans le monde. Dans les faits, les pressions de l'OTAN sont tour à tour invoquées par tous les gouvernements occidentaux pour se donner une fausse légitimité dans la poursuite d'une guerre que toute leur opinion publique rejette par ailleurs, sondage après sondage. Ce n'est pas d'un mini-débat théâtral à la Chambre des communes dont nous avons besoin, mais d'une vaste consultation publique sur la politique étrangère que souhaite la population canadienne et sur la place que devraient, ou non, y occuper les interventions de l'armée canadienne. C'est pourtant vers cet objectif que se tiendra à Montréal le sommet populaire contre la guerre au militarisme du 19 au 21 novembre prochain. Donc, à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin du week-end, vous allez trouver le lien, là, ici, des nouvelles. Qui nous vient du site là, de la gang du collectif Échec à la guerre. Alors allez voir ça si vous êtes dans le coin de Montréal, ça risque d'être intéressant. Il est temps qu'on passe à l'action et puis qu'on stoppe ces affaires-là, qu'on mette un arrêt à ces fabulations incroyables, ces mésaventures militaires qui coûtent des vies de nos soldats absolument pour rien. On est là pour protéger le pays, parce que l'Afghanistan, c'est l'axe principal pour faire transiger le pétrole à travers des pipelines. On récolte aussi pour l'équivalent d'environ 200 milliards de dollars de trafic de cocaïne. Alors, c'est extrêmement payant pour les Black Operations. Ensuite, c'est une place géostratégique extrêmement importante pour qui va contrôler le Moyen-Orient et puis qui va contrôler les routes d'acheminement de l'énergie pour la Chine, la Russie, l'Inde et puis le reste de l'Asie. C'est pour ces vraies raisons-là, pour les ressources naturelles qui sont encore sur le sol, sous le sol, inexploitées. Alors, il ne faut pas se leurrer, je veux dire, on n'est pas là pour sauver les femmes, je veux dire, on n'est pas là pour instaurer la démocratie ou quoi que ce soit, je veux dire, c'est vraiment très colonialiste et impérial comme attitude. Donc, allez voir ça, c'est des trucs là qui doivent cesser. On n'a pas d'affaires, on n'a pas d'affaires là, c'est pas compliqué, on n'a pas d'affaires là. Donc, ça, c'est un sujet très important. Vous allez d'ailleurs voir des nouvelles aussi sur Haïti. Haïti qui, maintenant, là, a des épidémies de choléra. Alors, on a envoyé là-bas des dizaines de millions de dollars. On a donné de l'argent pour s'apercevoir que la grande majorité, je devrais dire, de ces fonds-là ne se sont jamais rendus au peuple haïtien. Je vois encore des vidéos, des reportages où on voit les Haïtiens qui habitent encore dans les tentes de réfugiés. On a eu des ouragans qui ont passé sur l'île. Je veux dire, ça a frappé ces gens-là. Écoutez, là, un ouragan, là, quand tu habites dans une tente, là, ça va pas bien, là. Je veux dire, c'est pas très agréable. Et puis là, on se retrouve avec des cas de choléra. Écoutez, imaginez, c'est complètement débile. Donc là, on se retrouve quasiment un an plus tard en Haïti avec des gens qui, finalement, ne sont pas plus sortis de la misère qu'ils l'étaient il y a plusieurs mois. OK? Alors, où est passé cet argent? On s'en fout. On est arrivé là, on a paru très bien en voulant sauver l'île. Et puis, c'est tout le temps la même affaire. On envoie nos soldats. Puis finalement, ben, le peuple, il finit tout le temps par continuer à vivre dans la merde. Je veux dire, disons les choses comme elles sont. Je veux dire, c'est misérable. Et puis, ben, c'est encore là. Je veux dire, on envoie nos troupes pour intervenir dans ces pays-là. Finalement, on n'aide pas. Je veux dire, finalement, on fait juste mettre la main sur ces contrées-là pour les contrôler, tout simplement. Donc, un autre exemple. Alors, vous allez trouver des articles aussi sur ça. Haïti, c'est vraiment pas une situation drôle. Et puis là, après le tremblement de terre, tout le monde s'en émouvait. Genre, c'est tellement triste. Comment ça se fait que ces gens-là, oh Dieu, sont tellement frappés par la misère, puis c'est tellement difficile, puis on dirait qu'ils sont pas capables de se prendre en main, puis... Tabarnane. On leur envoie des dizaines de millions de dollars, l'argent ne se rend pas, puis finalement, on laisse les gens vivre dans des conditions complètement misérables, où l'hygiène est tellement manquante que là, le choléra se développe. Et puis, un coup que le tremblement de terre est passé, puis que là, on a joué au grand sauveur, et puis, hein, les Bush, les Clinton, tout le monde se lance là, on s'en vient vous sauver, les sauveurs, hey. Un coup qu'après ça, là, on a bien paru dans les médias, zap, on n'entend plus parler de l'Haïti, puis tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en contrefout, s'en balance bien raide, je veux dire, plus personne parle d'Haïti, je veux dire, on s'en calisse. Excusez-moi, là, je veux dire, terme québécois, là, mais on s'en calisse. Hey, Haïti, on tabarnak. Hey, whatever, on a envoyé notre argent, nous autres, on a fait notre part, là, je veux dire, comment ça se fait que ça s'en sort pas? Comment ça se fait que ça s'en sort pas? Et pas, c'est où l'argent? Mais passez où l'aide? Qu'est-ce qu'on fait, Simonac? On est capable de bâtir des villes quasiment en un an, mais là, on est supposément que là, on n'est pas capable de bâtir Haïti. Voyons donc. Voyons donc. Pourquoi ne pas avoir donné cet argent-là, l'avoir distribué également à travers toutes les gens, là? T'sais, on dit, ouais, les gens ne sont pas capables de gérer l'argent. Hey, prends les dizaines de millions qu'on a envoyés, là, divise ça par la population, leur donne-leur l'argent, puis laisse-les sortir. Je dis, ils vont se prendre en main. OK? S'ils ne réussissent pas, ils n'auront qu'eux autres qu'à se blâmer. Mais là, on arrive comme les sauveurs, puis finalement, non seulement on ne les sauve pas, ils sont dans les pires conditions que quand le tremblement de terre est arrivé. Voyons donc. Alors, allez lire ça. Allez lire ça. Il y a maintenant, écoutez, il y a tout un dossier que je vais parler aussi là, plus tard après la pause. Là, c'est évidemment la situation dans les aéroports aux États-Unis, là, avec les fameux scanners corporels qui sont très invasifs, et puis on va en parler très en détail, là. Et puis, si vous voulez ne pas passer là, si vous refusez finalement d'utiliser ces scanners-là, ben là, vous devez subir les nouvelles procédures dans les aéroports de la TSA. Et puis, on vous fouille avec les mains, on fouille partout, on vous touche partout, là. Je veux dire, quand je dis ça partout, là, c'est vraiment partout, là. Et puis, c'est en train de faire une fureur incroyable aux États-Unis. Ça, on va en parler sous très peu. Là, vous allez voir, c'est tout un sujet. Ça, ne manquez pas ça, parce que c'est un autre exemple parfait, là, justement, de la société dans laquelle on vit, une société Big Brother de surveillance, où, finalement, nous, on est traités comme du bétail. Un article assez choquant qui est paru ici au Canada, un juge qui a condamné un petit groupe là, de policiers dans la ville d'Ottawa qui ont réellement là, agi d'une façon assez barbare avec une prisonnière, une femme qui a été lancée en prison. On l'a déshabillée à nu. Et puis, imaginez, là, je veux dire... On lui a enlevé son chandail, même sa brassière. C'est un policier qui avait dit ça. C'était même pas une femme qui l'a fait. On lui a coupé sa brassière, son soutien-gorge. Et puis, on l'a laissé dans la cellule pendant 3 heures. Imaginez, une affaire incroyable. Ça s'est passé en 2008. C'est en train de faire surface. Une affaire complètement incroyable. Alors, vous voyez que les sujets cette semaine vont un peu se connecter autour de ça. C'est-à-dire que l'élite est en train de montrer son vrai visage. Ce qu'on appelle le gouvernement, là, finalement, qui a été pris par un coup d'État par le secteur privé, secteur militaro-industriel et bancaire. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, là. C'est un coup d'État silencieux qui s'est passé. Et on trouvait que notre démocratie, nos droits s'effritaient depuis plusieurs années. Ben, c'est le résultat de ça. Ces gens-là sont pas là pour nous servir, ils sont là pour servir leur propre intérêt. Et puis, quand on commence à les menacer, justement, en expliquant ce qui se passe et puis en se rebellant, ben là, ils commencent à montrer leur vrai visage, à finalement lever la visière, à montrer leur croc. Et puis, on voit comment que de plus en plus la population générale est traitée comme des bêtes, comme vraiment là du bétail. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, vous allez voir ça dans l'actualité aussi au Québec. Ben là, vous avez une pétition qui circule depuis un certain temps. Ça vient de partir, ça fait pas si longtemps que ça. Et vous avez déjà, j'ai regardé hier, là, en date d'hier, on avait 175 000 signataires. On doit être rendu pas loin de 200 000, j'imagine, aujourd'hui. 200 000 signataires, pourquoi? Ben, c'est pour demander la démission de Jean Charest. Alors, vous voyez, les choses commencent à bouger ici aussi, là. À un moment donné, on en a assez pris. Il faut passer à l'action. Alors, même qu'il faudrait pousser cette action-là plus loin, grève générale, pourquoi pas. Donc, faut demander ici à Jean Charest, le premier ministre du Québec, de démissionner. Moi, je vous invite à aller signer cette pétition, évidemment, et puis à vous manifester. Soyez créatifs, soyez intuitifs. Révolution, ça n'a pas besoin d'être sanglant, hein. Révolution, c'est la révolution de la pensée. Changez votre paradigme de pensée, puis commencez à être intègre, et puis vivez selon, en accord avec votre pensée, quoi. Et puis, les choses vont changer. Posez des actions, des petites actions. Des fois, c'est des actions vraiment, même invisibles. Des actions anonymes. Et puis, des petites actions anonymes de désobéissance civile. Faites de quoi? Faites de quoi? C'est les petits gestes comme ça, individuels, qui vont s'accumuler sans qu'il y ait de concertation, parce que la prochaine révolution ne pourra pas être menée par un leader, parce que ça ne marche jamais. Le leader, il se fait tirer une balle dans la tête, puis le mouvement, il meurt. C'est pas bien compliqué, là. On a besoin d'un mouvement qui n'a même pas l'air d'un mouvement. Il faut avoir l'air d'un groupe qui n'a même pas l'air d'un groupe. C'est-à-dire un paquet de personnes qui commencent à changer individuellement leur façon de penser, leur vision du monde, et qui la changent personnellement dans leur cours, et puis que tout ça concorde ensemble et finalement commence à créer un mouvement général, répandu. Et puis, ben écoutez, c'est des petits gestes comme ça qui finalement sont des signes que ce changement-là est en train de se passer. Alors, je vous invite à suivre ça de proche. Vous avez, écoutez, là, c'est quand même assez significatif. Jean Charest a même réagit par rapport à ça. Lui, il a balayé ça du revers de la main, perpétuant son refus de tenir une enquête publique indépendante, vous savez, là, sur l'histoire des travaux et puis via les corps policiers. Vous savez, là, on a demandé aux corps policiers de mener des enquêtes et que les corps policiers ont dit on n'a pas tout le pouvoir pour vraiment faire la lumière là-dessus. C'est les fameux contrats là, du secteur de la construction avec les syndicats. Vous savez, la caisse de dépôt, on a perdu des milliards de dollars. Il n'y a jamais personne qui a enquêté là-dessus. Il n'y a jamais personne qui a reçu une claque sur les doigts. Je veux dire, complètement hallucinant. Il se passe un paquet d'affaires et puis ce gars-là semble responsable de sous-marin. Même il refuse. Là, il balaie ça du revers de la main, là, cette pétition-là. Il disait que les gens sont juste sont pas trop, mais sont un peu mécontents. Là. Écoutez, là, c'est rien de grave, là. Hein, c'est rien de grave. Alors, elle a signé ça. Je veux dire, j'ai tous tes liens ici, là. C'est vraiment très important. Il est temps qu'on y fasse comprendre à ce poulain de la famille Desmarais et puis des conservateurs au niveau fédéral qui sont venus saboter le Québec, qui sont venus saboter réellement notre prospect à, pas nécessairement à faire l'indépendance, mais à être un peuple indépendant. Je veux dire, un peuple qui est capable de gérer lui-même, qui n'est pas à la merci des pouvoirs extérieurs. Ça l'agace les gens. Ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça que le Québec soit indépendant, qu'ils soient capables de vivre indépendamment. Alors, on essaie de saboter ça de l'intérieur. On nous envoie des gens qui se disent du Parti libéral, alors qu'ils étaient conservateurs au fédéral, qui reliaient la famille Desmarais, des gens qui sont ici finalement pour commettre des actes de trahison. Pas bien compliqué. Puis nous autres, ben, on est là pour on bronche pas ou on fait rien. Alors, peut-être une action à faire. Donc, allez voir ça aussi. Des trucs importants. Vous avez ici, là, je suis en train de regarder les nouvelles qui sont sur le bureau. Vous avez une série d'articles là, sur justement la décision du gouvernement canadien de continuer à garder la présence là, des troupes canadiennes en sol afghan. Et puis, ce n'est pas que le gouvernement canadien qui songe à faire ça. Vous avez aussi l'administration Obama et puis ses alliés de l'OTAN qui ont déclaré un peu plus tôt cette semaine que la guerre en Afghanistan a fait suffisamment de progrès pour commencer à se tourner vers le contrôle de la sécurité et puis de retourner ce contrôle-là, ce pouvoir-là au gouvernement afghanistan et puis au service des forces afghanes. Alors, on dit que, bon, vous savez, là, c'est tout le temps la façade encore le public. On annonce ce processus de transition. Et puis, finalement, ben, transition, il n'y aura pas de transition, là. Je dis, on va rester là pendant bien des années. Ça, c'est la réalité. Alors, vous voyez que c'est tout le temps, des apparences cosmétiques. On vous prétend qu'on va se retirer du pays alors qu'en réalité, nos troupes continuent de rester sur le terrain, de se faire tuer, de se faire brutalement amputer, maganer réellement, là, c'est la réalité de ce qui se passe et va venir de se passer. Alors, vous avez même Hillary Clinton qui a confirmé que les États-Unis ont entraîné Osama Bin Laden quand je parlais de Tim Osman. C'est un fait. Vous avez même Hillary Clinton qui l'a admis cette semaine. Ça a été admis officiellement que les États-Unis ont entraîné Osama Bin Laden. Et puis là, bon, on est censé être en Afghanistan pour attraper Bin Laden qui est mort depuis 2001. Je veux dire, des foutaises incroyables. C'est incroyable. Alors, ça a été avoué sur un show de ABC, alors qu'elle parlait du Pakistan qui supportait les talibans et puis qu'il avait changé leur façon de penser depuis 2001. Alors voilà, quand même assez intéressant d'aller voir une nouvelle, là, aller voir. Il y a Noam Chomsky aussi qui a fait un volte-face, Noam Chomsky il m'avait beaucoup déçu parce que, bon, finalement, il lui disait que le 9-1, c'était, parce que vous savez, quand je posais la question, pourquoi on est en Afghanistan, hein? Voyons, on commence à connecter les points. Ben oui, on est là parce que le 9-1 est arrivé. Hein? Puis là, c'était supposément l'Al-Qaïda puis Osama Bin Laden qui a fait ça. Et puis là, avant ça, on a accusé les talibans de cacher Bin Laden. Et puis, hey, écoutez, là, c'est incroyable, là, je veux dire, le tissu de mensonges là, qu'on nous a servi, c'est incroyable. Et puis, Noam Chomsky, qui est censé être un des plus grands intellectuels de la résistance de tous les temps, eh bien, finalement, avait complètement passé à côté de la traque là, par rapport au 9-1, et puis même déclarait que c'était un sujet sans importance, qu'on ne devrait pas s'en préoccuper, c'est une distraction. Je dis, excuse, là, Noam Chomsky, mais de passer pour ce qu'on appelle en anglais des gatekeepers. Vous avez des gatekeepers, des gardiens, des portails, si vous voulez, des bodyguards, si vous voulez, des gardiens de la gauche et de la droite, c'est-à-dire qui vont mettre des limites au discours acceptable. Et puis, pour ceux qui donnent un grand respect pour Noam Chomsky, si Noam Chomsky dit que le 9-1, c'est une histoire sans importance, qu'évidemment, que c'était Bin Laden et puis l'Al-Qaïda, ben, ça va entraîner beaucoup de gens de la gauche à croire cette version-là. Et puis, finalement, à croire la version officielle, vous comprenez? Donc, Noam Chomsky, qui réellement, là, il m'avait laissé très dubitatif, là, face à tout ça. Donc, Noam Chomsky, là, qui vient de sortir finalement de sa torpeur et puis déclarer, il était temps, qu'il n'y avait aucune évidence, là, selon laquelle Al-Qaïda était responsable des attaques du 9-1. Et bien, Noam Chomsky se réveille en 2010, alors il était temps. Mais mieux vaut tard que jamais. Alors, ça valait la peine d'en parler. Bon, écoutez, là, il y a tellement de nouvelles. Là, je veux dire, on pourrait continuer là-dedans. On va s'arrêter là pour le moment. On va se taper une petite toune. Hein, on va se faire plaisir quand même, là, on va s'écouter de la bonne musique, le temps de se détendre un peu. Et puis après ça, on va revenir avec le sujet très, très délicat, très chaud là, en ce moment aux États-Unis, qui pourrait être une distraction aussi là, des vrais enjeux là, dont lesquels on devrait parler, c'est-à-dire le Foreclosure Gate, là, le fameux scandale des reprises de finances dont on parlait. J'ai écrit un article aussi sur la manipulation massive du marché des métaux précieux, qui est un scandale incroyablement gigantesque aussi, du vol des banques, de l'économie, de la destruction de la classe moyenne volontaire pour finalement détruire, mettre à genoux les États-Unis et de la classe moyenne et puis enrichir la classe ultra-riche, déjà les banquiers privés, le secteur privé. Alors, tout ça est connecté ensemble, on va parler de ça. Et puis, encore plus, alors, je vais dire, ça, c'est les enjeux les plus importants. Mais là, on arrive à des sujets, quoi, c'est très important aussi, le truc là, des pourdos scanners, comme je les appelle, les pourdos scanners corporels. Alors, on va quand même en parler, mais Ne vous laissez pas distraire non plus par ces choses-là. Je veux dire, bien que ce soit des trucs importants, si vous voulez éviter les fameux aéroports américains de plus en plus dictatoriaux et tyranniques, eh bien, simplement cesser de vous rendre par avion aux États-Unis. C'est pas plus compliqué que ça. Je veux dire, ça peut être un dossier très facilement réglable. Et puis, un coup que l'industrie du tourisme va s'effondrer, puis les compagnies aériennes vont faire faillite, bien, vous allez voir que ça va changer assez rapidement. Et puis vous allez comprendre que ben des gens vont dire ouais, mais là c'est important la sécurité, bla bla bla. Ben, vous allez comprendre pourquoi c'est un argument complètement faux, un argument vide de sens. Et je vais vous donner de très solides raisons pour expliquer ce que je suis en train de vous dire. C'est de la bullshit quand on parle de sécurité là dans les aéroports. Ces fameux scanners-là n'apportent pas de sécurité du tout. C'est un faux concept. On ne gagne pas du tout avec ça. Alors, je vais vous expliquer pourquoi après la pause. Alors, à tout de suite. Hey, vous êtes de retour à l'autre monde. Alors, on va revenir maintenant avec notre fameux dossier sur les porno scanners corporels qu'on retrouve dans les aéroports. Alors, je sais comment c'était complètement futile et ridicule cette histoire-là. Seulé, quand on fait toutes les connexions de toutes les informations, là, vous allez voir que c'est un dossier complètement ridicule, là, je veux dire, on n'a pas besoin de ça, c'est une affaire complètement débile, on est en train d'épeurer la population, et puis finalement de les assujettir un entraînement à être des esclaves obéissants, quoi. Je veux dire, vraiment se plier à une tyrannie, à un gouvernement totalitaire et dictatorial. Alors, c'est réellement ce qu'on est en train de faire. On vous parle tout le temps de sécurité, 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 le terrorisme, sécurité, sécurité, Ben Laden, Ben Laden, Ben Laden, sécurité, sécurité, terroriste, terroriste, Ben Laden, Al-Qaïda, 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 Al-Qaïda. Hein? Bom, 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 explosif, 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 feu, feu, tout le monde va mourir. Al-Qaïda, Al-Qaïda. Hein? Je veux dire, on n'arrête pas de répéter les mêmes termes de façon continuelle, en loop, en espérant qu'à force d'entendre les mots, on finit par vous hypnotiser, vous faire vivre dans une atmosphère de peur permanente. Je veux dire, vraiment, la politique actuelle est vraiment basée sur la peur, la terrorisation des populations. Et puis, à qui ça profite? Écoutez, avant, on parlait du secteur militaro-industriel. Oui, il profite, c'est sûr. C'est un secteur très à l'aise financièrement en ce moment. Il ne faut pas diminuer là, leur proportion, mais vous devez comprendre que le secteur qui est le plus en boom économique depuis ces dernières années, c'est le secteur de la sécurité, hein? Toutes les compagnies là, qui se font dans la sécurité fleurissent de façon fulgurante en ce moment. Okay? Je veux dire, on fait énormément d'argent à terroriser les populations et puis après ça, avec des solutions de sécurité, entre guillemets, il faut remettre les pendules à l'heure. Je veux dire, à un moment donné, là, on parle de sécurité dans les aéroports, il faut que les avions, ça soit sécur. Écoutez, je veux dire, à un moment donné, ça devient un point tellement ridicule que à un moment donné, on va vous donner des statistiques qui vont complètement démolir ce mythe-là. Il y en a une ici qui, moi, qui m'avait frappé. J'avais lu ça il y a à peu près un an, où on avait calculé que finalement, on avait beaucoup plus de chances. Je crois que c'était une affaire comme deux, trois ou quatre fois plus de chances de mourir frappé par la foudre que de mourir d'un acte de terrorisme. Imaginez. Imaginez, on a plus de chances de mourir frappé par la foudre que de mourir dans une attaque terroriste. Hein? Alors, imaginez avec tout le tabac médiatique qu'on fait avec le terrorisme et puis la sécurité. Si on gardait les mêmes proportions, je veux dire, les journaux devraient être remplis à la première page, à la une, semaine après semaine, des dangers de se faire frapper par la foudre et puis des mesures qu'il faudrait mettre en place pour se protéger de ça. Hein, vous voyez un peu le ridicule de la situation. Une autre aussi affaire qui est ridicule, quand même bien là que vous mettriez en place les systèmes de sécurité les plus serrés, les plus Je dirais, écoutez, là, les plus invasifs, les plus puissants dans les aéroports, les terroristes, s'il y en a, je veux dire, à un moment donné, c'est pas des idiots non plus, là. Si, il n'y a pas de possibilité pour eux ou il y a trop de risques à passer les lignes et puis à monter à bord d'un avion, ben, la bombe qu'ils ont, ils vont la faire sauter dans l'aéroport, je veux dire. On va atteindre les mêmes objectifs. Si on veut tuer du monde, on va tuer du monde n'importe où, je veux dire. S'il n'y a pas moyen de monter à bord d'un avion, on monte à bord d'un autobus, on monte à bord de. Voyons donc, on va aller dans un marché, on va aller. Tu sais, vous comprenez, à un moment donné, là, la situation, là, je veux dire, on est en train de faire un gros bad trip total, je veux dire, avec les aéroports, comme c'était la seule place où un terroriste pouvait frapper, tu sais. Voyons donc, comme c'était la place la plus sensible, je veux dire, écoutez bien, là, il y a des affaires bien plus sérieuses que ça, là, je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter de tu sais, il faut mettre les choses en perspective, là, hein. Et puis, il faut comprendre aussi d'où ça sort, ces affaires. Il y a tout le temps des conflits d'intérêts. Il faut tout le temps gratter un peu en dessous de la surface pour aller voir ce qui se passe réellement. On se demande qui a poussé ces fameux scanners-là aux États-Unis, les fameux scanners corporels. Et puis, vous allez apprendre que c'est l'ancien secrétaire du Homeland Security aux États-Unis qui s'appelle Michael Chertoff, qui, lui, avait donné des dizaines d'interviews dans les médias. Qui lui parlait là, vous voyez, du besoin du gouvernement fédéral d'acheter de ces fameux scanners-là pour les mettre dans les aéroports, alors qu'il a fait vraiment, il avait pas fait mention que son groupe qui lui appartient, qui s'appelle le Chertoff Group, qui est son agence là, de conseiller en sécurité, qui inclut un client, lui, qui manufacture justement ces machines-là. Chertoff, qui l'a admis après ça, qui a admis cette relation-là sur un programme de CNN. Alors, vous voyez un peu les conflits d'intérêts incroyables. Après ça, on apprend que Chertoff, lui, avait commandé ces fameux scanners-là alors qu'il était à la tête du Homeland Security, avant même que le fameux terroriste à la bombe, là, dans ses sous-vêtements, la journée de Noël passée, il y a à peu près presque un an maintenant, je veux dire, avant que cet incident-là se produise, alors Chertoff avait déjà commandé ces scanners-là. Alors là, il manquait juste la justification pour dire, écoutez, voyez, la solution, c'est ça. Eh bien, imaginez, après ça, vous avez ce fameux incident-là qui est arrivé avec M. Abdul Muttalab, qui montait à bord alors de façon complètement là, inusitée. Cette personne-là n'avait pas de passeport. Et puis, on l'a fait monter. Comment? Ben, c'est un agent du FBI qui l'accompagnait, qui l'a mis sur l'avion. Alors, ça a été même, après ça, admis un mois plus tard par les autorités américaines, imaginez. Alors, c'est complètement débile, là. Je veux dire, elle vient de où, la menace, là, à un moment donné? Il faut se poser des questions. Après ça, ben, vous allez voir de plus en plus de résistance qui est en train de monter aux États-Unis. Ils viennent de différents États, dont du New Jersey, puis de différents représentants politiques qui commencent à clamer là, dans les médias que justement ces scanners corporels sont une violation du quatrième amendement de la Constitution des États-Unis, puis avec raison, la Constitution qui défend les Américains contre les cherches, les fouilles. Qui sont injustifiées ou invasives, OK? Alors, voilà des fouilles, évidemment. On a décidé il y a 2 ou 3 semaines là, de changer les procédures dans les aéroports. Alors, si vous refusez de passer à travers les scanners corporels, ben là, on vous fait une fouille manuelle. Et puis, la fouille manuelle, maintenant, se fait avec les deux mains. Et puis, on vous fouille vraiment partout, là. On vous touche les parties privées, là. Réellement, là, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, ça, c'est en train de gêner pas mal de monde, évidemment. Et puis, c'est pas juste les adultes qu'on fouille, c'est les jeunes enfants aussi. Vous allez trouver là, une série d'articles, là, où on a fouillé des enfants aussi jeunes que 3 ans, je veux dire. Les enfants qui hallucinent ben raide, ils pleurent, ils crient au meurtre, je veux dire, c'est assez hallucinant de voir ça, là. Je veux dire, normalement, là, vous avez un étranger, là, qui touche à votre enfant comme ça, et puis vous sortez le bat de baseball, puis vous commencez à faire un remontage des dents. Hein? Je veux dire, imaginez, là, en tant que père, là, vous voyez votre jeune fille là, se faire toucher par un inconnu comme ça, là, qui supposément est un officiel des aéroports, puis qui touche votre enfant qui est au meurtre, là, touche l'enfant partout, là, comme c'est un pervers sexuel, là, je veux dire, à un moment donné, il y a des limites en Simonac, là. Imaginez aussi en tant qu'homme, moi, je vois ma femme passer à travers ces douanes-là se faire fouiller par un gros connard là, des services de sécurité des aéroports, là, je veux dire, pas certain que je vais me sentir tout doux, tu sais. C'est ça qui est en train de se passer aux États-Unis, c'est qu'il commence à se créer une révolte assez importante. Et avec raison, là, vous allez trouver là, plusieurs articles là, très intéressants, dont je vais vous résumer ici là, le plus important. Vous devez comprendre que ces mesures-là sont mises en place depuis le 9-1. Alors, le 9-1 qui est encore central à toutes ces affaires-là, le 9-1 qui a servi à justifier des politiques étrangères coloniales et impériales, comme je parlais au début de l'émission, et aussi à couper dans les droits de la personne à la maison et en Occident, à couper dans nos droits et libertés de façon draconienne. Ça découle du 9-1 aussi. 9-1 qui est un inside job, évidemment. Vous avez même des gens sur Fox News, comme Geraldo, qui se sont finalement ravisés 9 ans, 10 ans plus tard, et puis qui commencent à écouter, ont donné de la publicité aux architectes et ingénieurs dont je fais partie. On est plus de, je crois, c'est 1 400 architectes et ingénieurs, là, des professionnels du bâtiment qui vous disent, écoutez, là, des bâtiments, ça s'effondre pas comme ça à la vitesse de la chute libre, dans le chemin de la plus haute résistance structurelle, à cause que vous avez des feux, là. Arrêtez de niaiser de même. Vous avez eu un feu la semaine passée ou au début de semaine en Chine. C'est en Chine. Vous avez le bâtiment, écoutez, là, un multi-étage, là, un gros bâtiment qui est en feu du bas jusqu'en haut. Là, je veux dire, c'est une torche géante finalement. Le truc, là, il est au moins 25 fois plus en feu que les trois tours du World Trade Center l'ont jamais été. Là, je veux dire, le truc est en feu. C'est une boule de feu, là, je veux dire. Et puis, rien qui s'est écroulé. Je veux dire, ça n'a aucun sens cette histoire-là. Ça n'a aucun espèce de bon sens, cette histoire de version officielle-là. Qui est la vraie théorie de conspiration d'Ada, je veux dire. Alors c'est depuis ce temps-là que ça découle, évidemment. Et puis, comme je vous disais, c'est le secteur de la sécurité, le secteur privé de la sécurité qui en profite de façon fantastique. Je veux dire, ces machines-là coûtent énormément d'argent. OK? On dépense énormément d'argent là-dedans, là. Et là, on apprend aussi de plusieurs personnes très respectables et très crédibles. Ici, c'est une nouvelle là, qui nous vient d'un biochimiste, un professeur à l'Université de la Californie, qui lui a déclaré que l'administration d'Obama a déclaré, lui, il parle justement, c'est ça comme je disais, là, de l'administration Obama qui aurait déclaré que justement ces scanners-là ne posent pas aucun risque à la santé pour aussi les voyageurs. Et lui, il dit, écoutez, ce n'est pas vrai, ces scanners-là peuvent avoir des effets mutagènes. OK? Alors, peuvent faire muter votre génétique. Oh boy! OK? Alors, ça, c'est une nouvelle. Là, on a une autre nouvelle ici, des groupes de scientifiques américains qui ont déclaré la semaine passée que ces images-là, qui sont produites avec, c'est des ondes millimétriques qui finalement scannent la surface de votre peau et la pénètrent un peu. Ce sont des doses de radiation, même à basse intensité, même si c'est à faible dose, sont toxiques, sont cancérigènes, sont potentiellement mutagènes. Okay? On a des articles qui parlaient que ça dissipait votre chaîne d'ADN, ça endommage votre chaîne d'ADN. Est-ce que ça, vous pensez-vous que c'est un équivalent? Pensez-vous que c'est un échange qui est souhaitable? Je veux dire, est-ce que votre sécurité vaut la peine d'endommager votre génétique? Est-ce que vous pensez vraiment que c'est la meilleure solution? Il n'y a pas moyen d'avoir d'autres solutions que ça. Pensez-vous que c'est vraiment la seule solution d'assurer la sécurité, hein, en prenant des doses de radiation cancérigènes et mutagènes? Alors ça vient de la bouche de des scientifiques, okay? Des professeurs en biochimie. Des gens ici, écoutez là, c'est des gens qui dirigent les laboratoires des rayons X dans le département de la biophysique et puis de la chimie biophysique à l'université de Johns Hopkins. Et puis, vous savez, c'est l'école de la médecine là-bas. Donc ça a été rapporté par AFP. All right? Alors ça, c'est pas des informations à prendre à la légère. Vous voyez, c'est énormément d'argent. Et puis, vous avez le gouvernement américain qui a utilisé de l'argent du stimulus financier. On a utilisé 25 millions de dollars des payeurs de taxes pour acheter puis installer ces scanners corporels dans les aéroports cette année, supposément dans un effort d'augmenter la sécurité dans les aéroports et puis de créer des emplois. Alors, on a acheté au-dessus de 150 de ces machines-là. Ces machines coûtent environ de 150 000 à 180 000 dollars US par machine. On vous dit que ces machines-là ne sont pas capables de garder les images en mémoire et de les transmettre. Vous avez un chef de la police cette semaine qui, lui, travaillait dans une cour de justice aux États-Unis et qui utilise le même type de technologie, puis qui lui a affirmé ou a admis publiquement que ils ont gardé, mon Dieu, le chiffre, là, c'est au-dessus de 100 000, je me rappelle bien, là, je l'ai levé un peu plus bas. On a gardé des dizaines et des dizaines de milliers de photos en mémoire. On est capable de les sauvegarder. On est capable de les transmettre. Ça s'est déjà passé. On a eu des cas d'un acteur indien qui est passé comme ça en aéroport, et puis on s'est retrouvé avec certaines de ses fans qui ont réussi à se procurer sa photo qui en est sortie de ce scanner-là. Donc, les fans qui ont vu finalement ce chanteur-là à nu en riait sur un talk show, mais vous voyez, là, c'est un mythe, là. On essaie de vous rassurer des choses qui sont des mensonges. Alors, on peut sauvegarder ces images-là. Imaginez la situation. Alors, des machines comme ça, on dit tout le temps qu'elles sont sécuritaires, qu'on les met en place. Ah oui, on vous assure, oui, c'est sécuritaire. Ne vous en faites pas. Hein, ne vous en faites pas. Ben, ici, sur le site, sur un des sites sur lesquels je prends mes nouvelles, What Really Happened, on donne un exemple ici de ce qu'on appelle un shoe fitting X-ray device. Alors, une genre de machine, là, pour finalement prendre des images à rayon X là, de vos pieds. Et puis on dirait que cette machine-là est absolument sécuritaire, qui était mise en place dans tous les grands centres d'achat, les grandes chaînes là, dans les années 20 et 30, là, si je me rappelle bien de mémoire. Et ça est demeuré comme ça en opération pendant une dizaine d'années, jusqu'à temps qu'on s'aperçoive que les vendeurs de chaussures commençaient à mourir du cancer. On s'est aperçu que ces machines-là émettaient des doses de radiation cumulatives, parce que ces trucs-là, c'est cumulatif. Et puis finalement, on a interdit ces machines-là. Alors, c'est tout le temps la même affaire. Au début, on dit, oh, c'est sécuritaire, les gens s'en font pour rien, les gens tout le temps capotent pour rien, les gens hallucinent, sont paranoïaques. Et puis après une couple d'années, ben, on s'aperçoit que c'était vraiment cancérigène, c'est dangereux pour la santé, puis là, on les retire. Alors, c'est un autre exemple, hein? C'est un autre exemple de ça. Ensuite, vous savez, les gens qui sont à la plus fine pointe de la technologie de surveillance, surtout des techniques de sécurité dans les aéroports, c'est les Israéliens, les aéroports israéliens qui sont vraiment là l'exemple international à suivre si vous voulez vraiment instaurer un système totalitaire là, de surveillance, là. Alors vraiment les Israéliens là, sont vraiment en tête du peloton. Et puis vous avez un de ces experts israéliens là en sécurité dans les aéroports. C'est pas un sans-dessin, c'est pas une nounou, ce gars-là, là. Ça a été publié par le journal du Vancouver Sun. C'est une tête, un expert, OK, de la sécurité dans les aéroports, qui a déclaré que le gouvernement canadien a gaspillé des millions de dollars en installant ces machines qui sont complètement non nécessaires, qui ne servent absolument à rien dans les aéroports à travers le pays. Ça a même affaire aux États-Unis, puis dans le reste des autres aéroports en Europe et ailleurs dans le monde. Cette personne-là déclare que on ne sait pas pourquoi tout le monde est en train de courir pour acheter ces machines qui sont extrêmement dispendieuses et qui ne servent à rien. Cet expert en sécurité a dit qu'il pourrait facilement contourner ces machines-là, ces scanners-là, avec assez d'explosifs pour faire exploser un Boeing 747. Que lui a déclaré qu'il n'y a absolument rien là. Ces machines-là sont même pas faites pour déclarer tous les types de bombes. D'ailleurs, Abdul Muttalab, dans l'attentat supposé, là, à la bombe là, au sous-vêtement du 25 décembre dernier, avait passé à travers un de ces scanners-là à Amsterdam et qu'on n'avait même pas détecté là, sa charge explosive. Imaginez, là, je veux dire, c'est complètement ridicule. Le gars passe à travers un de ces scanners-là avec la bombe sans qu'il détecte. Puis après ça, on vous dit qu'il faut installer exactement ces scanners-là pour augmenter la sécurité dans les aéroports, alors que ça n'avait servi à rien. Un illogisme à vous péter la tête d'un mur, là, je veux dire, c'est de quoi vraiment incroyable. Et puis là, vous avez un des experts en chef là, qui vous dit que ces machines-là, ça sert à rien. Donc, c'est même pas mon opinion, c'est pas l'opinion de Joe Blow qui connaît pas de dossier, qui parle à travers son chapeau, là. OK? C'est pas. Lui, il déclare, et puis je cite, il dit, c'est pour ça qu'on les a pas mis dans nos aéroports en Israël. Imaginez, le gars, il déclare ça en référant à l'aéroport international de Ben Gurion. OK, alors, qui se trouve à être au sommet de la sécurité la plus dure dans le monde, OK, la plus sérieuse. Alors, cette personne-là, c'est qui? C'est un certain monsieur Sella, qui est un ancien chef de la sécurité, un officier de la sécurité, de l'autorité de la sécurité dans les aéroports israéliens, un vétéran de 30 ans qui est dans ce domaine-là, et puis dans la technologie de la défense, imaginez, là, qui a aidé aussi à designer le principe de sécurité à l'aéroport de Ben Gurion. Comme je vous dis, là, ça vient pas là, de la bouche de quelqu'un qui s'y connaît pas, mais c'est vraiment un des tops dans ce domaine-là. Le Canada, cette année, a acheté 44 de ces scanners corporels-là pour les installer dans les aéroports majeurs canadiens, dont trois à l'aéroport international de Vancouver. On a un aussi à Montréal. Au moins un, je pense qu'on en a deux. J'ai eu ça en partant cet été. Chaque machine coûte en dollars canadiens 250 000 $. Alors, imaginez, là, c'est de l'argent maudit qu'on gaspille, là, absolument pour rien, pour enrichir un gars comme Michael Chertoff, OK? Alors, en voilà des raisons. Après ça, on commence à tomber dans le volet là, où c'est que, là, on parle des fouilles, hein? Donc, on vous fouille. Donc, si vous voulez pas passer à travers de ces scanners-là, ben là, on vous donne le choix. On vous donne encore le choix. Pendant combien de temps, je sais pas, mais on vous donne encore le choix, bien qu'on vous ridiculise et puis on crie à tue-tête. Ah oui! Une personne vient de décider de ne pas passer les scanners. Donc, on essaie de vous humilier, là, de vous humilier à l'aéroport. Et puis après ça, ben, on fouille partout. Hein, on pogne le sac et puis les seins. Et puis, hey, c'est fantastique, là. Je veux dire, après ça, on touche aux enfants. Et puis, là, évidemment que vous avez de plus en plus de plaintes des passagers. De ces pratiques qui sont évidemment un envahissement de votre vie privée, là, je veux dire, c'est incroyable là, ce qui se passe. Alors, évidemment qu'on dit que même l'administrateur de la TSC, là, qui s'appelle John Pistole, là, qui a déclaré que ces techniques-là, c'est pour augmenter la sécurité, que c'est correct. On a même essayé de faire croire dans certains médias que la majorité des voyageurs est en accord avec ça. Je veux dire, voyons donc des sondages complètement bidons. Quand on se retrouve avec d'autres sondages un peu partout qu'on retrouve avec des taux de 87 à 90 % des Américains qui ont été sondés, qui finalement sont contre ces scanners corporels et puis surtout ces nouvelles procédures de fouilles manuelles des passagers. OK? Les personnes qui travaillent pour la sécurité dans les aéroports sont aussi victimes de ces scanners-là parce que ça émet des radiations tout autour, là. Je veux dire, vous avez même une photo, vous allez trouver ça dans un article qui s'appelle Did Gizmo Do Publish Fake Scanner Images to Trick the Public? Vous allez trouver ça. Vous avez une photo dans cet article-là où vous voyez que non seulement on voit la personne qui a été scannée, mais le gars aussi de la sécurité en arrière, donc il apparaît dans l'image. Donc ça veut dire que lui, il reçoit des doses de radiation à chaque fois qu'un passager passe. Imaginez. Là, vous allez regarder ça, là, vous vous rappelez, marquez mes mots, là. Dans une couple d'années, là, vous allez voir de plus en plus de cas qui vont sortir dans les médias. On va entendre que justement, ce personnel de sécurité dans les aéroports développe des tumeurs cancéreuses très graves. OK? Vous allez voir ça dans quelques années, là. Ça prendra pas plusieurs années. Ce sera pas très long. OK? Rappelez-vous ça. Donc, ces gens-là qui jouent, là, au Goldorak, à l'armée, là, dans les aéroports, puis qui pensent qu'ils sont finalement récipiendaires d'un droit divin de vous fouiller comme ça, de mettre vos mains sur votre corps sous le principe là, sacro-saint de la sécurité. C'est ces gens-là qui vont mourir en premier des cancers causés par ces machines-là. Okay? Et puis, ça, quand ça va arriver, ben, on va peut-être pas avoir beaucoup de monde qui vont pleurer pour eux autres. Parce qu'à un moment donné, les gens qui font ces jobs-là, ils ont peut-être un examen de la conscience à faire aussi. On parlait d'intégrité, on parle d'éthique, là. On est en train de tomber, on est en train de verser vers ce monde-là. La corruption, elle commence à se révéler partout parce que c'est la fin du règne de la corruption. Donc, c'est un château de cartes qui est en train de s'écrouler. C'est ça que ça a l'air. Les gens, des fois, perdent d'espoir. Moi, je vous dis, en fait, tout est en train de s'écrouler parce qu'on est en train d'avoir une nouvelle ère qui est en train de s'installer, qui est l'ère de l'éthique. OK? Tout ce qui n'est pas éthique, finalement, est en train de péter. Comme une grosse ballonne chaude en plein visage de tout le monde sur la place publique, et puis c'est dans un paquet de domaines, autant du 9-1-1, du H1N1, du guerre contre le terrorisme, le 9, tu sais, toutes ces affaires-là, la fameuse folie, l'hystérie du réchauffement climatique causé par le CO2, la guerre contre le terrorisme, toutes ces conneries-là, je veux dire, c'est tout en train d'exploser. Et puis, c'est à cause de l'éthique. À un moment donné, les gens sont en train de voir à travers le voile et puis de voir la vérité pour ce qu'elle est réellement. Vous avez un article ici qui parle de la tyrannie de la TSA qui continue Vous avez le chef de la TSA, comme je disais, John Pistol, qui a déclaré au Sénat du Homeland Security la semaine passée que les passagers qui refuseraient d'aller se faire une image en rayon X là, à travers ces scanners-là, ou qui rejetteraient la fouille manuelle, ne seraient pas permis de voyager, de monter à bord des avions. Imaginez. Alors, c'est incroyable. Même ceux qui se défendraient que cela est refusé selon leurs croyances religieuses. Imaginez, donc on refuserait même l'argument de religion. Alors, ça c'est incroyable, là, je veux dire. Après ça, évidemment que là, vous avez un backlash incroyable. Là, vous avez le gouvernement américain qui est obligé de faire un pas en arrière, de dire que bon, là, on va peut-être laisser les musulmans, les femmes musulmanes passer sans fouille manuelle, parce que évidemment que ça pourrait être considéré comme très offensif par elles, par leur religion, surtout quand on arrive avec des fouilles qui sont proches des organes génitaux, hein, à un moment donné, là. Sauf que là, si c'est offensif pour les femmes musulmanes, ben qu'est-ce qu'il y en est? Est-ce que ce n'est pas aussi offensif pour le reste de la population, pour nous? Alors, une question évidemment qui se pose. Ensuite, vous avez une nouvelle ici qui parle d'un fait aussi intéressant, là. On parle des médias alternatifs. C'est les médias alternatifs aussi qui ont rendu impossible pour les médias corporatifs d'ignorer ces fameux scanners corporels-là dont les médias se refusaient de parler. Alors, cette histoire, vraiment, là, s'est développée de façon virale sur Internet avec des milliers de citoyens de toutes sortes de nations, dont les États-Unis, qui ont demandé que, justement, leurs organes génitaux ne soient pas, hein, palpés par ces gens de la TSA. Hein, des gens qui finalement auraient le droit de vous toucher partout, comme c'était même votre docteur ne vous toucherait pas. Hein? Je veux dire, déjà, ça nous gêne quand on va au docteur, puis on est obligé de se faire toucher dans un endroit, dans nos endroits privés. Imaginez quelqu'un que vous ne connaissez pas à l'aéroport, puis là, on vous dit que si vous n'acceptez pas de passer à travers ces scanners-là, de vous faire toucher partout, ben là, que vous n'allez pas être admis sur le vol. Imaginez. Je veux dire, là, on est en train de brimer carrément vos droits fondamentaux de libre, hein, circulation, de vous déplacer librement, de votre droit à la vie privée, contre les fouilles invasives et abusives, okay, du gouvernement. Je veux dire, il y en a des arguments, là. Il y en a des arguments. Vous allez trouver une série de vidéos aussi à propos de ça. Vous avez des organisations maintenant, des pilotes. OK? Et les agents de bord qui, aux États-Unis, ont conseillé à leurs membres, imaginez, là, vous avez les associations des agents de bord et des pilotes qui ont conseillé à leurs membres de ne pas passer à travers des scanners corporels parce que eux, évidemment, qui volent de façon constante à chaque semaine, alors évidemment que les doses de rayons X, de radiation s'accumulent. Rapidement, en plus qu'en vol à haute altitude, on est soumis à plus de radiation cosmique. Alors imaginez, ce n'est pas qu'une histoire de passagers qui sont en furie, OK? Alors c'est des associations de pilotes et d'agents de bord qui envoient des messages à la TSA qui vont dire on ne va pas laisser passer nos membres à travers vos machines cancérigènes et mutagènes. Alors vous avez plusieurs aussi articles à aller voir là-dessus. Très intéressant. Vous avez même des gens qui ont protesté en Allemagne. On est arrivé dans un aéroport et puis, pour justement dépeindre un peu la situation, ces gens-là se sont déshabillés en sous-vêtements à l'aéroport pour montrer un peu, dans le fond, que c'est ça qui arrive. On arrive à l'aéroport puis on se met à nu, là. Je veux dire qu'on le fasse physiquement en enlevant nos vêtements ou qu'on, finalement, on permette à des gens de prendre des photos de nous à nu. À un moment donné, là, écoutez, là, hein, il y a des maudites limites à ça, là. Je veux dire qu'on est rendu là, qu'on est réduit à être des sujets sans complètement impuissants à se mettre à nu pour respecter les pratiques et les politiques gouvernementales. À un moment donné, là, c'est qu'il devient temps peut-être de démanteler ces organisations de sécurité et ces gouvernements. Hein? Il y a des maudites limites à permettre ces gens-là d'envahir nos droits et puis de finalement nous traiter comme du bétail. Okay? Comme je vous disais, on a plus de chances de mourir frappé par la foudre que par un acte de terrorisme. Alors, à un moment donné, là, quand je vois ma petite fille, moi qui j'ai pas de petite fille, là, mais c'est un exemple que je donne, là. Si j'ai une petite fille ou même un garçon qui se fait fouiller par un gros toton là, de la sécurité à l'aéroport, je veux dire, à un moment donné, c'est parce que Ah, si on a plus de chances de mourir là, de la foudre, peut-être qu'il faudrait arrêter de capoter avec la sécurité dans les aéroports, là, hein? Je veux dire, la sécurité, c'est beau, c'est correct, mais à un moment donné, il faut rester aussi là, dans les limites du raisonnable. Ça, c'est pas raisonnable. Alors, vous allez trouver plusieurs articles. Je crois que je vais clore la parenthèse là-dessus, quand même une bonne parenthèse. Bien, je veux dire, ça m'en valait la peine de vraiment traiter ça en profondeur parce que j'en parle à chaque semaine. Puis là, ben, on va faire un bon bloc là-dessus, puis ça va être traité. Allez voir ça, on moleste des gens, des enfants qui hallucinent, des personnes âgées. Écoutez, là, on a même demandé à une personne de 71 ans d'enlever sa prothèse. Elle avait une jambe là, qui est une prothèse. Imaginez, là, une jeune femme, on lui a demandé d'enlever ses boucles d'oreilles qu'elle avait dans les seins. Vous savez, des gens ont des piercings, là. Elle avait une boucle, un anneau dans un sein, puis là. Le gars, le TSC aux États-Unis, lui a demandé d'enlever là sa brassière, puis d'enlever la boucle d'oreille. Je veux dire, hey là, le fou là, hey le malade, tu sais, à un moment donné, lâche-la là, ok? Il va se passer de quoi si vous arrêtez pas? Il va se passer de quoi? Ça, c'est certain. Vous avez même des mouvements, un mouvement qui s'appelle We Won't Fly. Alors, on ne va pas prendre l'avion. Des gens qui se mettent ensemble pour dire, écoute, on va arrêter de prendre l'avion, là. C'est pas bien compliqué. On a fait même un sondage en demandant à les gens s'ils étaient plus susceptibles d'arrêter de prendre l'avion depuis les nouvelles procédures de sécurité dans les aéroports. Et 97% des gens, c'est 18 096 votes qui ont été placés. 97% des gens ont dit que oui, je vais essayer de voyager de façon alternative sans prendre l'avion, alors que vous avez seulement que 2% qui ont dit que non, ça ne changerait pas mes habitudes de voyage. Alors seulement 403 votes, et puis 1% d'indécis avec 209 votes. Alors voyez que les gens, là, à un moment donné, là, ils commencent à voir la solution. C'est justement arrêter de voler. Vous allez voir les compagnies aériennes s'effondrer, puis l'industrie du tourisme s'effondrer, puis là, eux autres, là, quand ils vont dire qu'écoutez, on fait fête, vous allez voir que ça va changer assez rapidement. C'est pas une question de sécurité. On essaie tout le temps de vous dire sécurité, 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 ben Laden, terroriste. Ah, bou, 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 bou. Arrêtez, là, c'est pas une question de sécurité. Ça n'a rien à voir avec la sécurité. Ça n'a absolument rien à voir avec la sécurité. Pas du tout, pas du tout. Et vous savez, même des prisonniers aux États-Unis qui ont réussi à se faire prévaloir en cour, ils vont recevoir des dédommagements de 55,3 millions de dollars dans une poursuite. Une class action, là, comment on appelle ça? Une poursuite judiciaire là, de groupe. En tout cas, il y a un nom à ça, j'ai oublié le nom, là. C'est 250 000 personnes qui ont été fouillées de façon trop invasive dans des prisons aux États-Unis. On réussit à faire dédommager, mais on traite les gens comme ça dans les aéroports, les passagers. Imaginez, là, je veux dire, la TSA qui traite les passagers, les civils qui voyagent à travers les aéroports américains de façon pire que les prisonniers dans les prisons aux États-Unis. Je veux dire, à un moment donné, là, quand je dis que la situation est complètement hors de contrôle, elle est hors de contrôle. On utilise ça, tous les prétextes sont bons pour faire de l'argent. Vous avez même, évidemment, que là, ça augmente les files d'attente dans les aéroports. Alors là, on crée des nouvelles files d'attente. Alors, vous payez en Angleterre 5 livres sterling, et puis là, on vous passe en tête de ligne, comme ça, vous êtes capable de sauter la ligne d'attente. Donc, imaginez. Donc, on crée un problème. Après ça, on fait de l'argent là-dessus. Vraiment débile. Après ça, c'est qui ces gens-là? Est-ce que, tu sais, je veux dire, ces gens-là qui se donnent le droit de vous fouiller comme ça, est-ce que c'est des gens qui descendent des entrailles de Dieu, des gens qui sont issus de l'énergie, de la force divine de la vie, hein, des gens qui sont des anges? Ben non, c'est pas des anges. Vous avez des personnes qui là-dedans qui bon sont des bonnes personnes. Vous en avez d'autres, je veux dire, évidemment, qui abusent de leur pouvoir. On leur donne plus de pouvoir, ces gens-là, vont en abuser, c'est bien certain. Alors, vous avez un chapelet de nouvelles aussi d'employés de la TSA aux États-Unis qui ont été arrêtés pour voler. Un ici, c'est plus de 100 items. Lui, il volait des affaires dans les bagages des voyageurs. Après ça, il les revendait sur eBay. Alors, ça, c'est un article. Ensuite, vous avez ici, attendez un peu. Un gars de l'aéroport d'Atlanta à Hartsfield qui un jour a intercepté une jeune femme qui volait vers l'Europe. Et puis le gars, ben, il a tout simplement pris les seins. Là, une jeune femme de 14 ans de la Belgique qui voyageait seule. Alors lui, ben, il fouillait la jeune femme. Donc, Probablement qu'il trouvait qu'il avait des beaux seins. Fait que Zapp, lui, il a pris les seins de façon assez claire, là. Alors, je vous laisse découvrir les détails, là. Je veux dire, c'est vraiment incroyable. Alors, voilà. C'est comme ça qu'on fouille les gens. Ensuite, vous avez d'autres travailleurs de la TSC ici qui ont prétendu avoir trouvé de la drogue dans des sacs de passagers à l'aéroport international de Philadelphie en janvier dernier. Et on joue des tours, on a joué des tours. Ben ouais, après ça, on a admis que c'était juste un petit tour et trouvait ça le fun, hein, selon les documents de la TSC elle-même. Alors, imaginez. Et un autre ici qui s'appelle Charles Henry Bennett, un travailleur encore de la CIA, de la TSC dans la sécurité, qui a été arrêté, lui, pour essayer d'avoir poussé une jeune fille à devenir son esclave sexuelle. Alors, ben oui. Alors, il est accusé, lui, de molestation d'une jeune fille par le comté de shérif de Orange County. Alors, ça aussi, c'est un autre cas judiciaire. Ensuite, vous avez un autre agent qui a été arrêté à l'aéroport de Los Angeles cette fois. Lui, qu'est-ce qu'il faisait? Ben, c'est que il utilisait des drogues après des parties, puis là, après ça, il rentrait au travail. Alors, vous avez finalement la TSC qui est prise dans des scandales de sexe, de drogue et puis de vol d'items, de bagages de passagers. Vraiment, c'est une job fantastique. Donc, voyez, c'est complètement débile, là. Je veux dire, mais après ça, vous avez parlé dans les semaines précédentes de ces fameux camions-là qu'on va utiliser aux États-Unis pour circuler dans les rues, prendre des images de rayons X de vos voitures, de vos maisons. Alors, on va vous irradier un peu partout où vous vous trouvez, pas juste dans les aéroports. Alors, on continue comme ça. Ensuite, vous avez d'autres armes. On appelle ça un rayon là, de douleur. Alors, c'est des armes à énergie micro-ondes qu'on déploie maintenant dans les prisons américaines, qui ont été utilisées en premier par l'armée américaine en Irak. Alors, on teste ces machines-là au front, dans les guerres illégales, comme au Moyen-Orient. Et puis, quand on s'aperçoit qu'elles fonctionnent bien, peu de temps après, on s'aperçoit que ces machines-là qui étaient militaires, qui étaient utilisées par les militaires, commencent à être utilisées par le secteur public, par le gouvernement, contre la population, contre les prisonniers. Et vous avez une nouvelle de ça, là, qui parle de ça. Donc, on commence à utiliser ce qu'on appelle en anglais des Pain Ray Energy Weapons, alors des armes à énergie à ondes, là, à micro-ondes de douleur. Alors, ça fait bouillir votre peau sous, ça fait bouillir l'eau sous votre peau. Et puis, c'est une douleur vraiment insoutenable. Je veux dire, ça pourrait même être utilisé comme une arme de torture. Alors, on utilise ça maintenant contre les gens ici à la maison, contre les soldats. Alors, ça a été rapporté par AP, le NYPD qui commence à utiliser des scanners de l'iris sur des suspects. Ça a été rapporté par AP et CBS. Puis, c'est encore une autre application qui a commencé avec une utilisation militaire et puis maintenant qui est utilisée sur des Américains. Okay? Donc, ça a été utilisé dans des checkpoints en Irak. Puis maintenant, on s'en sert à New York. Le département de la police a dépensé 24 000 $ par unité. On en a 21 autour de la ville. Alors, voilà. Donc, c'est un autre exemple d'un contrôle de la société totale, un scénario orwellien qui est en train de s'installer directement dans notre visage. OK? Et la grande question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Alright, chers auditeurs, alors on aborde le dernier tronçon, on n'en a pas pour très longtemps, l'émission achève. Alors, ce que je vais faire, c'est vous inviter à aller lire l'article de la semaine que j'ai publié qui s'appelle Massive manipulation des prix des métaux précieux. Un article important à comprendre, là. C'est un autre des plus grandes histoires de fraude économique de la décennie, je devrais dire une de plus. Il y a eu l'affaire d'Enron, l'affaire de Bernard Madoff, la crise des saisies immobilières, l'assouplissement quantitatif, sans oublier le dollar américain qui est manifestement mûr pour une dévaluation catastrophique. Maintenant, on parle d'une impressionnante fraude de manipulation qui a lieu dans les marchés des métaux précieux, dont particulièrement l'or et l'argent métallique, par des institutions financières majeures comme Goldman Sachs, comme JP Morgan. Une histoire un peu complexe que j'ai résumée là, en termes simples et compréhensibles dans ce texte-là, qui est d'une importance capitale puisque cette fraude a le potentiel de causer un massif effondrement économique. Alors, tous les détails sont dans cet article-là où on apprend que, grosso modo, non seulement on manipule le prix des marchés à l'avance, on est capable de savoir et même faire chuter le marché, le maintenir artificiellement bas pour profiter. On mise à la baisse et on fait des profits incroyables. Et puis en plus, on se retrouve avec des institutions comme le London Bullion Market Association, le LBMA, qui est le plus vaste marché d'or au monde, qui possédait supposément des réserves pour garantir les dépôts d'or et qui ne les ont pas. Alors, je vous explique dans cet article-là comment qu'on a vendu jusqu'à 100 fois plus d'or qu'il n'en existe physiquement, réellement, dans le monde. Imaginez, je vous en parlais dans une émission précédente, alors je ne m'étendrai pas trop sur ce sujet-là. Allez trouver tous les détails là-dessus. On a vendu 100 fois plus de titres d'or qu'il n'en existe réellement. OK? Une histoire complètement débile. Allez voir ça. Un article aussi qui vaut la peine d'être lu. Pourquoi? Ben parce qu'il y a des solutions à la fin. Des solutions qui risquent évidemment de secouer le système, qui pourraient aussi envoyer un message très clair à ces banquiers-là qui semblent se contrefoutre carrément de la population, qui sont en train de mettre en place des crises économiques volontairement créées pour s'enrichir et puis détruire la classe moyenne et instaurer un nouveau système économique, une nouvelle gouvernance globale à travers un système financier mondial qu'ils contrôlent avec une monnaie mondiale et une institution financière qui contrôlerait de façon supranationale, qui finalement transcendrait les souverainetés nationales et contrôlerait les économies du monde. Alors, on a une arme redoutable entre les mains en ce moment, entre les mains de la population, et elle doit être utilisée. C'est un appel à la population mondiale de retirer leurs épargnes, leur argent de la banque le 7 décembre prochain, le 7 décembre qui s'en vient. On invite le reste du monde à y participer, à retirer massivement l'argent des banques. Je vous laisse découvrir les informations par rapport à ça par vous-même. Et une autre initiative qui vient de Max Keiser. Des fois, j'en parle ici sur l'émission, une personne très connaissante aussi, un ancien des marchés. Et puis, lui a proposé une autre façon d'envoyer un message très clair aux banquiers privés en faisant s'écrouler JP Morgan, en se procurant tous et chacun seulement une once d'argent métallique ou de prendre physiquement possession de ses avoirs en métaux précieux si vous en avez. Et puis, cela est facile puisque JP Morgan et les autres ont vendu 100 fois plus d'or et d'argent qu'il n'en existe réellement. Alors, ce ne serait pas très long avant qu'ils soient obligés de déclarer faillite. Alors, le prix actuel de l'or, là, qui en coûte à peu près 25, 26 $ américains l'once, on peut déclarer une guerre à ces grands banquiers-là et puis les faire s'écrouler parce que si les gens achètent physiquement de l'or, prennent possession physiquement de ces métaux précieux-là, étant donné qu'ils en ont vendu 100 fois plus qu'en existe, ce ne sera pas bien ben long qu'ils ne seront pas capables de fournir à la demande et ils vont être capables finalement, là, fournir justement ces métaux précieux-là qui n'existent pas et vont être obligés de déclarer faillite, vont imploser. Alors, c'est déjà en train d'ailleurs de se produire. Une nouvelle a été publiée cette semaine par le gouvernement américain, en fait, par l'organisme qui frappe ces pièces d'argent et ces pièces d'or. Alors, on a suspendu les ventes de pièces d'argent aux États-Unis parce qu'on n'en a plus cette semaine. Selon l'information qu'on nous dit, c'est qu'il y aurait une demande sans précédent en ce moment. Alors, cet appel à acheter une once d'or fonctionne. C'est déjà une preuve tangible. Et puis, ça risque de faire paniquer extrêmement gravement les banquiers privés qui, eux, s'amusent à ruiner la population et à s'octroyer des bonus de centaines de milliards de dollars. Je veux dire, hey, les géants de Wall Street viennent de se permettre des bonus de l'ordre de 144 milliards de dollars alors que tout le monde est en train de crever de faim aux États-Unis. Vous avez une maisonnée sur sept qui a manqué de nourriture en 2009-2010. OK? Vous avez des chiffres absolument catastrophiques à aller voir sur les nouvelles internationales. Cette semaine, on a découvert, vous avez Bernanke qui a confirmé que le rôle global de la Fed et puis de l'assouplissement quantitatif, c'est-à-dire d'imprimer de l'argent, hein, on vient d'injecter 600 milliards de dollars de plus, 600 milliards de dollars de plus dans l'économie qui vont aller directement dans les mains encore des financiers de Wall Street, des banquiers privés, ne sert qu'à faire quoi? À booster le prix du des marchés. Hein, du marché boursier. Alors, ce n'est pas pour raviver l'économie, pour aider les Américains à ce qu'ils n'y perdent pas leur fonds de pension, ne perdent pas leur maison ou quoi que ce soit. Ça sert finalement à garder l'illusion que le marché boursier ne s'effondre pas. Donc, on manipule les prix des marchés, du marché boursier, on manipule le prix des métaux précieux, on manipule la valeur du dollar américain. Finalement, là, le système économique, là, est manipulé de A à Z. C'est pas bien compliqué, là. Je veux dire, manipulé de A à Z. Tout est un château de cartes, et puis là, il suffit qu'on retire une carte, le tout va s'écrouler comme un jeu de domino, là. Vous allez voir ça dans les prochains mois, là, je l'ai dit, là. On risque d'avoir une dévaluation du dollar américain de plus de 20 à 30 %, et puis on pourrait voir des choses assez spéciales se passer dans les temps pas très lointains. OK? On manipule les marchés, incroyable. Vous avez Alan Greenspan, qui a été le directeur de la Fed aux États-Unis, qui est une banque privée, la banque centrale, mais qui est une banque privée gérée par une gang de banquiers privés qui, d'ailleurs, ont célébré leur 100e anniversaire à la même place qu'ils ont créé la Fed en 1913 à Jekyll Island. Alors, incroyable. Alan Greenspan, comme je vous disais, qui est de l'ancienne tête de la Fed, qui lui a admis que le problème en ce moment économique est dû à cause de la fraude. OK? La fraude qui est un des principaux problèmes du système économique en ce moment. Alright? Je veux dire, là, ça vient de la bouche du top, du capitaine, là, du grand boss, OK? Du gros voodoo, du gourou, esprit. Pas compliqué, là. Alright? Alors, les activités illégales, la fraude qui est rampante, qui est partout, je veux dire, en train de corrupter le système au complet, est maintenant avouée même par l'ancien président de la Fed aux États-Unis. Complètement incroyable. Alors, allez voir ça. Vous allez voir aussi plein d'histoires sur le G20 qui s'est passé. Obama qui a eu bien la misère à convaincre le reste de la planète à suivre la voie des États-Unis, à supporter finalement leur imprimé d'argent qui va faire dévaluer fortement leur monnaie nationale. On essaie de tout mettre ça sur le dos de la Chine. La Chine, elle, qui a pris finalement le lead là, de blaster les États-Unis puis de leur mettre à leur place. Obama qui est passé à travers l'Inde, justement, en passant par là, en signant des contrats d'échanges commerciaux de plus de 10 milliards de dollars. Alors, on s'est promené dans les nations asiatiques et puis on a annoncé des deals de business de plus de 10 milliards de dollars. Alors, c'est tout le temps là, une question de cash. Hein? Après ça, Obama qui, après ça, dit que l'Inde devrait avoir un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. On parle de consensus qui était difficile à avoir. Il n'y a pas eu de consensus du tout, du tout. Je veux dire, écoutez, là, il n'y a aucun consensus. Les États-Unis, finalement, se sont fait ridiculiser sa place mondiale. C'est pas bien compliqué, là. Vous avez le dollar qui a déjà perdu son statut de réserve mondiale. Alors, c'était déjà en train de se passer. Vous avez plusieurs nouvelles qui parlent de ça. Ça aussi, là, c'est important de voir ça. Donc, plusieurs nouvelles sur l'histoire de G20, la guerre des monnaies. Alors, évidemment que ces guerres de monnaie-là peuvent ultimement mener à des vraies guerres véritables militaires. Et d'ailleurs, les États-Unis ont traditionnellement sorti des grandes dépressions en allant en guerre, allant en train de finalement mettre les jalons pour la prochaine guerre, en train de blâmer la Chine de tous les maux des États-Unis, alors que ça n'a rien à voir. Les États-Unis sont en train de se ruiner avec des aventures militaires qui coûtent des trillions de dollars et d'autres trillions de dollars pour le secteur financier, les banquiers privés, alors que la population américaine, elle, est laissée à crever. Hein? L'infrastructure est en train de s'écrouler aux États-Unis. Donc, c'est pas rose là, ce qui se passe là-bas. Okay? Alors, allez voir ça. Vous avez Obama, lui, qui a déclaré qu'on doit embrasser le globalisme et puis vraiment embrasser il appelle ça, lui, le One World Economy. Donc, l'économie mondiale d'un monde unique. Les 20 raisons pourquoi, ici, dans cet article-là, on ne devrait pas suivre ça. Je vous laisse découvrir ça. Donc, plusieurs exemples là, économiques comme quoi les États-Unis n'ont vraiment pas profité de la globalisation. On parle là, de déficit d'échanges commerciaux, de perte d'emplois. Écoutez, il y a 42 400 manufactures qui ont été perdues aux États-Unis depuis 2001. Incroyable, là, je veux dire, c'est incroyable. Okay, les États-Unis qui ont perdu un demi-million de jobs juste cette année d'emplois. Okay? Donc, vous avez des exemples comme ça, là, absolument incroyables. Vous avez les taux de chômage qui se retrouvent au-dessus de 20 % en ce moment, les vrais chiffres, là, okay? au-dessus de 20 %. On dit que les États-Unis ne sont pas en dette de 13 trillions de dollars. Vous avez ici des professeurs, là, des gens là, de très grande crédibilité qui ont déclaré que les États-Unis sont dans le rouge de plus d'une affaire, je me rappelle bien, de 200 trillions de dollars. Okay? Donc, un pays qui, selon un autre mathématicien, s'est dit qu'il est mathématiquement impossible à se sortir là, de la dette. Là. C'est, je veux dire, il y a trop de dettes. C'est impossible de s'en sortir. Complètement débile, complètement débile. Donc, allez voir ça. Et puis, vous allez trouver un autre article très intéressant où on apprend que d'un côté, on mène deux livres de comptabilité aux États-Unis, c'est-à-dire que les États, les municipalités, puis le gouvernement fédéral vous montrent certains chiffres. Alors, toutes les dépenses sont montrées dans certains chiffres. Et puis, on a d'autres livres de comptabilité qu'on ne déclare pas à la population, qui, dans ces livres-là, on a des... Écoutez, là, je dis des centaines de milliards de dollars de profit. Alors, vous avez des États, le gouvernement fédéral, qui, en réalité, ont des fortunes de cachets. Okay? Et puis après ça, on présente au public seulement qu'une face de la comptabilité en disant qu'on est ruiné. Et puis là, ben, il faut couper les services sociaux, il faut couper partout. Donc, voilà quoi. Donc, on pourrait se retrouver facilement avec un dollar américain qui va chuter, les prix de l'argent et de l'or qui risquent de monter. On parle de l'or là, de 3 à 8 000 dollars selon les experts, là, OK? L'once, OK? 3 000 à 8 000 dollars l'once. On parle de l'once d'or qui pourrait passer à 50 jusqu'à même à 900 dollars l'once. Alors, ça, c'est les nouvelles les plus hautes de la semaine. Alors voilà, c'est tout pour nous. On se quitte là-dessus. J'espère que vous appréciez l'émission. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre paquet d'informations. Et d'ici là, ben moi, je vous dis, portez-vous bien. Je vous salue bien bas. C'était François Marginal pour L'Autre Monde. Ciao!